Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et puis comme chaque soir, 19h15, le Club des idées. Avec ce soir la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson, coup de griffe contre les contre-vérités du Covid. Et le grand débat sur les secrets d'Amazon. La plateforme est attaquée de toutes parts et voit ses ventes s'envoler depuis le début de la crise sanitaire. Alors, faut-il boycotter Amazon, comme le réclament de nombreuses voix, pour protéger les petits commerces? Amazon est-il un créateur de valeur ou au contraire un disrupteur qui appauvrit notre industrie, qui plus est en échappant à l'impôt, ou presque? Alors faut-il avoir peur d'Amazon pour parler clair et sa toute puissance? On en parle donc à partir de 19h15 dans le Club des idées avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes sur Europe 1.
J'ai les boules, je veux bosser. Et si les choses ne reprennent pas leur cours normal, je vais faire un dépôt de bilan. J'ai créé ma boîte, j'ai créé mon bar et je veux pas le laisser tomber.
La pression s'accentue sur le gouvernement. Les restaurateurs, les petits commerçants ne comprennent toujours pas pourquoi ils ne peuvent pas rouvrir.
Oui, nous serons à Lyon, où ils ont de nouveau fait entendre leur voix aujourd'hui, à Cannes avec Florence Kamerman, libraire et rebelle, mais qui commence à en avoir assez des descentes aussi de police.
À Marseille, les pompiers, épaulés par des chercheurs, traquent le virus du Covid dans les eaux usées et ça marche. Leur travail a permis d'éviter des clusters.
Août 2015, l'attaque du Thalys. Le principal accusé reconnaît les faits au premier jour de son procès.
Et puis avec Didier François, on reviendra sur les reproches d'Emmanuel Macron à l'encontre de la presse anglo-saxonne. Il estime qu'elle ne comprend pas la laïcité à la française et déforme ses propos sur l'islam.
La tendance météo avec Anissa qui nous a retrouvés en studio. Le temps redevient sec, ma chère Anissa, demain.
Oui, après la dissipation des nombreux nuages bas de la matinée, la journée de demain sera agréable et douce. Alors plus au sud qu'au nord, mais ça restera une journée très sympa. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Une lumière qui s'allume sur le front de l'épidémie, un peu plus de 2 semaines après le début du reconfinement. Nous reprenons le contrôle, dit aujourd'hui le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique, mais le ministre poursuit. Attention, il serait pour autant tout à fait prématuré de crier victoire et de relâcher nos efforts, avertit Olivier Véran, alors que les petits commerçants réclament à corps et à cri l'autorisation de rouvrir.
Et ils ont de nouveau fait entendre leur voix ce lundi à Perpignan ou à Lyon pour la 3e fois, Jean-Luc Boujon. Environ 1 millier de commerçants et d'indépendants derrière un slogan « On veut travailler ».
Oui, un slogan simple répété en boucle sur tout le parcours de la manifestation et des commerçants, des patrons de bars ou de restaurants très remontés contre le gouvernement qui seraient en train, selon eux, de tuer à petit feu leurs établissements. Une perspective insupportable comme est venu le crier Charlotte, patronne d'un bar dans le 7e arrondissement.
J'ai les boules, je veux bosser, je travaille normalement 15 heures par jour et là je branle rien depuis un mois, je craque. Mon entreprise est en train de couler, je suis en train d'écumer la 2e partie de mon PGE et si les choses ne reprennent pas leur cours normal, je vais faire un dépôt de bilan. J'ai créé ma boîte, j'ai créé mon bar et je veux pas le laisser tomber, bordel!
Voilà, des interdictions d'ouvrir qui entraînent des réactions très vives hein, chez les commerçants. Illustration aussi avec Constance, responsable d'un magasin de déco dans un quartier chic de la ville. Elle se dit prête à désobéir si les magasins ne peuvent rouvrir début décembre.
Je suis pas quelqu'un qui fait la grève, je suis pas quelqu'un qui manifeste, mais oui, je pense que là, l'union fait la force et que oui, s'ils veulent pas ouvrir le 1er décembre, il faut qu'on ouvre tous. On en a marre, ce serait pas civique, mais en fait, je vois pas pourquoi d'autres magasins, d'autres grandes surfaces ont le droit d'ouvrir. S'il y en a qui peuvent, ben moi aussi.
Voilà qui en dit long sur le désarroi des commerçants indépendants qui assurent pouvoir concilier ouverture de leurs magasins et sécurité sanitaire.
Et voilà donc pour ce reportage de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Vous l'avez peut-être découverte la semaine dernière sur Europe 1 dans notre émission SOS Petit Commerce. Florence Kamerman est devenue le symbole des petits commerçants en quelque sorte. Elle refuse de fermer sa librairie malgré les restrictions et elle est en direct ce soir avec nous. Bonsoir madame, merci de nous accorder quelques instants en direct dans Europe Soir.
Bonsoir.
Alors depuis votre passage sur Europe 1 dans notre émission, vous avez je crois reçu de nombreux soutiens, mais aussi dû affronter une nouvelle descente de police. Est-ce que vous avez été sanctionné?
Alors, effectivement, oui, j'ai eu la visite vendredi dernier suite à notre intervention sur Europe 1 et la réaction du ministre Alain Griset qui annonçait que je risquais une fermeture administrative. De fait, le lendemain, j'ai reçu la visite 2 fois de la police dans la journée, une fois à 11h, une fois à 16h, me demandant si j'étais au courant de la législation, etc. Oui, monsieur, je désobéis en âme et conscience, en respectant scrupuleusement les gestes barrières sur 100 mètres carrés. je reçois 3 à 4 personnes avec lavage de mains, masque, etc. Bon, bref, nous avons eu de nouveau la police aujourd'hui. Là, le ton est monté d'un cran, puisqu'on m'a parlé de... C'était la dernière étape avant la fermeture administrative, et on m'a même parlé de garde à vue. Donc bon, je me demande si le gouvernement ne mesure pas l'importance qu'a la culture aujourd'hui, et surtout comment nous sommes tous atterrés, effarés, que ce soit les auteurs qui nous soutiennent, que ce soit les lecteurs qui nous soutiennent, nous sommes tous effarés de voir que le gouvernement s'en prend à une librairie.
Mais vous êtes prête
on
à
ne
prendre,
vend pas
madame,
de la drogue, on ne vend
vous
pas,
êtes prête
pardon.
À prendre ce risque d'une éventuelle garde à vue?
Alors, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais consulter... je sais que cette affaire est devenue un symbole, j'en ai conscience. Je vais consulter mon avocat, je vais consulter des proches, mon fils qui est étudiant en droit et qui avec lequel je réfléchis souvent. Et mon compagnon et moi allons annoncer notre position demain. On va se laisser une nuit de réflexion parce qu'il ne faut jamais réagir à chaud pour savoir si on va respecter ou pas cette fermeture. Qui si on ouvre demain, naturellement, ça peut être une fermeture administrative et ça peut être éventuellement une garde à vue.
Et on suivra la suite des choses avec vous, évidemment. Hein. On restera en contact si vous le souhaitez, madame. Merci Florence Cameraman, gérante de la librairie Autour du Livre à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Merci infiniment d'avoir témoigné ce soir dans Europe Soir.
Et pour les catholiques, en tout cas, la messe est dite. Leurs représentants ont rencontré le Premier ministre cet après-midi. Ils faisaient pression, vous le savez, pour rétablir les messes du dimanche. Eh bien, c'est non. En tout cas, pas pour l'instant, pas de reprise des célébrations religieuses avant la réouverture des commerces, c'est-à-dire pas avant au plus tôt le 1er décembre.
Un vaccin efficace cette fois à 94,5% après les 90% de Pfizer. Les laboratoires américains Moderna annoncent à leur tour que leur candidat vaccin est prêt à défier le Covid. Notez que le patron de Moderna, le français Stéphane Bancel, sera demain l'invité de la matinale à 7h40.
Depuis la première vague, on vous en a déjà parlé sur Europe 1, un réseau de surveillance se met en place discrètement en France. Sous terre, car le coronavirus peut être détecté dans les selles 4 à 7 jours avant l'apparition des symptômes et donc dans les eaux usées.
Oui, et bien à Marseille, les marins-pompiers analysent ainsi depuis plusieurs semaines ces eaux usées pour localiser les malades qui s'ignorent. La méthode a permis, selon eux, d'éviter l'apparition de clusters dans plusieurs EHPAD, Stéphane Frangy.
Et le premier bilan est encourageant pour le docteur Damien Thomas. Il est directeur de recherche pour le laboratoire C4 Diagnostic, le laboratoire qui gère donc l'analyse de ces prélèvements.
Cette approche a permis d'éviter un cluster dans au moins 2 EHPAD que nous avons testés dans un endroit où, bah, vous le comprenez, la population est fragile et hautement à risque. Et en fait, cette détection a permis de mettre en place toutes les mesures de la désinfection, l'isolement avant même que les premiers symptômes n'apparaissent.
Mais le bémol, c'est qu'en maison de retraite, eh bien, certains pensionnaires sont incontinent, ils sont porteurs de couches, ils ne vont pas aux toilettes. Mais peu importe, l'intérêt est ailleurs. Pour Emilien Chaya, il est directeur général du groupe Medeos. 3 de ces établissements sont encadrés par ce dispositif.
La photo que l'on va faire, bien entendu, elle ne concerne pas l'ensemble de nos usagers. Par contre, ça nous permet, par rapport à toute notre population salariale, aux visiteurs et aux familles, de nous assurer que ces derniers ne soient pas porteurs du virus. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un éclairage de scène.
Et d'ailleurs, des souches ont été détectées dans les eaux usées d'un de ces EHPAD, ce qui lui a permis d'anticiper des séries de tests qui étaient déjà programmées et donc de diagnostiquer plus tôt que prévu 2 membres de son personnel qui était infecté.
Le reportage de Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Un tel outil pourrait servir, par exemple, lors d'un déconfinement pour anticiper une remontée épidémique. Cette annonce maintenant concernant les enseignants. Jean-Michel Blanquer promet ce soir une augmentation de 100 euros net par mois pour les profs débutants à partir de mai prochain, versée sous forme de prime. Et il confirme également l'octroi pour tous d'une prime informatique de 150 euros par an.
Europe 1. Julien Bugier.
19h08, vous restez avec nous à suivre dans votre journal l'ouverture du procès de l'attentat avorté du Thalys.
Et les accusations graves d'Emmanuel Macron contre les médias anglo-saxons.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. L'histoire a donné lieu à un film de Clint Eastwood, mais ce 21 août 2015, c'est un drame qui a été évité dans le Thalys lorsqu'un homme armé d'une Kalachnikov sort des toilettes du train.
Oui, avec l'intention de commettre un carnage piloté par le coordinateur des attentats du 13 novembre. Ayoub El-Kazani a reconnu les faits ce matin à l'ouverture de son procès, auquel vous assistez pour Europe 1, Gladys Laffitte. Une première journée lors de laquelle on s'est beaucoup intéressé à la personnalité de ce principal accusé.
Oui, à la barre, Ayoub El-Khazani est à l'aise, les mains jointes devant lui. Il répond poliment et calmement au président, mais sans trop en dire, pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut pour retracer son parcours semé de galères. Après 18 ans au Maroc, il rejoint à Madrid avec le reste de sa famille, son père, peintre en bâtiment, à la mentalité ancienne, dit-il. Il est totalement déscolarisé depuis des années, consomme cannabis et cocaïne, trafique, devient parano et dépressif. Pour s'en sortir, il déménage dans le sud de l'Espagne. Là-bas se trouve l'un de ses grands frères. Ils sont 6 enfants, personnage important d'une mosquée fréquentée par des radicaux. Il a confiance en lui, reçoit ses conseils sur la religion et sur l'humanité, explique-t-il. Il se réfugie alors dans la religion. Mais c'est une succession d'injustices et de rancœurs qui le mènent vers l'État islamique. Il y a encore 3 ans, Ayoub El-Khazani en parlait comme d'un mouvement, comme des Robins des Bois qui défendent un peuple massacré. Enfin, dans le Thalys, vous y étiez avec une Kalachnikov, pas avec une trousse à pharmacie, lui rétorque l'avocat général. L'accusé assure avoir pris du recul et chercher aujourd'hui le milieu dans la pratique de la religion.
Gladys Laffitte qui suit pour Europe 1 ce procès. Ouverture également aujourd'hui d'un autre procès, celui de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia. On se souvient de la mise en scène orchestrée par l'accusé qui avait cherché à maquiller son crime en une nouvelle affaire de joggeuse assassinée qui avait provoqué un retentissement médiatique exceptionnel. Et bien Jonathan Daval a confirmé en ce premier jour d'audience qu'il avait bien agi seul.
Le procès également des attentats de janvier 2015 qui devait reprendre cet après-midi, après deux semaines d'interruption, a lui été à nouveau suspendu pour une semaine.
Oui, le principal accusé présente en effet toujours des symptômes du Covid-19.
On en vient à présent à cette polémique très inhabituelle entre le président français et la presse anglo-saxonne. Emmanuel Macron n'apprécie pas le portrait fait de la France par ses médias et en particulier de sa politique de lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical.
Il a accordé un entretien au New York Times et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors les mots sont forts, hein. Emmanuel Macron accuse la presse américaine de légitimer la violence terroriste.
Oui, mais alors parce qu'honnêtement, les titres affichés en une des deux principaux quotidiens américains au lendemain des assassinats de Samuel Paty puis des trois fidèles de Nice étaient à la limite de l'acceptable. 4 victimes égorgées de sang-froid par des terroristes islamistes. Et de quoi s'offusque le New York Times ? Du fait, dit-il, que des policiers français aient abattu un homme dans la rue suite à une attaque au couteau. Alors donc il n'est fait mention ni de terrorisme, ni d'islamisme, ni d'attentat, pas de mise en contexte, aucune empathie, voire même plutôt le contraire, puisque les journalistes du New York Times reprennent à leur compte les arguments des groupes radicaux qui estiment que le professeur d'histoire serait partiellement responsable de sa mort pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète. C'est cela qui est une forme de justification de la violence terroriste.
Ouais, c'est cela qui a provoqué la stupeur d'Emmanuel Macron et son intervention donc auprès de la presse anglo-saxonne.
Alors oui, d'autant qu'après son discours contre le séparatisme dans la République, c'est le Washington Post qui s'en est pris à sa politique avec cette accusation en première page. La France veut réformer l'islam au lieu de combattre le racisme systémique. Alors d'abord, ça prouve que les journaux américains lisent les événements français à travers le filtre exclusif de leur propre débat politique, qui tourne autour de l'extrême violence raciale, mais que surtout, ils n'entendent absolument rien à ce qu'est la laïcité française jugée comme attentatoire à deux puissantes valeurs américaines que sont le communautarisme et la liberté absolue de culte. Les droits au blasphème ou aux caricatures réaffirmées par le président de la République sont considérées par beaucoup aux États-Unis comme des atteintes à la tolérance religieuse qui pourraient donc légitimer la virulence particulière du terrorisme islamiste à l'encontre de la France. Bon, c'est malheureusement une explication plutôt simpliste quand on sait qu'Al-Qaïda ou que l'État islamique recrutent leurs djihadistes partout sur la planète et dans tous les pays, quel que soit d'ailleurs leur rapport à l'islam, et surtout qu'ils massacrent allègrement toutes les ethnies minoritaires, souvent réduites en esclavage, depuis les yézidis d'Irak jusqu'aux Makoua du Mozambique, hein, on se rappelle la semaine dernière. 50 personnes égorgées dans un village, en passant par les chouvas du Nigeria. C'était les 200 gamines qui avaient été enlevées dans leurs écoles. Alors donc, ces faits sont simples et têtus. Et c'est ce qu'a tenu à rappeler à nos collègues journalistes américains Emmanuel Macron.
C'est quand même paradoxal quand on sait la liberté d'expression poussée à l'extrême. Justement. Des pays anglo-saxons où il n'y a par exemple pas de loi mémorielle qu'il nous donne des leçons sur cette liberté d'expression-là.
Article
c'est quand même C'est quand même un con. Merci en tout cas Didier François, tous les soirs dans le journal de 19h.
Et puis une dernière minute, Julien, on vient d'apprendre que l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait été hospitalisé à Tours. Il a été transporté hier de sa résidence d'Auton dans le Loir-et-Cher vers l'hôpital Trousseau de Tours. Les causes de son hospitalisation ne sont pour l'instant pas connues. Mais on se souvient qu'en septembre dernier, il avait déjà été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour des problèmes respiratoires. Les médecins avaient écarté à l'époque une infection au Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing, qui était sorti quelques jours plus tard, l'ancien président à 94 ans.
Merci Isabelle. Et à demain, à partir de 18h, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo avec Anissa qui nous annonce, c'est bien du soleil demain, ça va faire du bien.
Oui, effectivement, Julien, la journée sera agréable dans l'ensemble, surtout sur la moitié sud du pays. En début de journée, nous aurons sur les trois quarts du pays pas mal de brumes et de brouillards. Soyez très prudents, il n'y a qu'au bord de la Méditerranée que le ciel sera dégagé. Au fil des heures, le ciel va se dégager. Sur la moitié nord, encore pas mal de nuages qui alternent avec le soleil. Dans l'après-midi, les températures sont en hausse avec 13 à 21 degrés.
Parfait, merci Anissa. Voilà qui est dit, bien dit. Et on vous retrouve demain à partir de 18h pour la météo dans le 18-20. Il est 19h16, l'heure d'ouvrir maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec ce soir, comme chaque lundi, la carte blanche de l'exceptionnel écrivain essayiste Philippe Besson. Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Julien.
Tout sourire devant moi. Alors ce soir, Philippe, alors que nous atteignons, semble-t-il, enfin le pic de la seconde vague, vous vouliez tirer à votre tour quelques leçons de la crise sanitaire. Premier enseignement, la science n'est pas exacte.
Eh ben oui, pourtant, souvenez-vous, nous avions été rassurés quand au printemps dernier, nous avons vu débarquer sur nos écrans de télévision tout un tas de médecins, professeurs, épidémiologistes. Ils incarnaient le savoir, ils détenaient une légitimité, ils allaient établir et nous dire la vérité. Rapidement, néanmoins, sont apparues leurs premières contradictions. Nous avons dû constater que leurs affirmations d'un jour étaient démenties le lendemain, que leurs certitudes étaient changeantes. Au fond, il nous a été rappelé ce que nous avions oublié dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres. C'est en marchant que l'on apprend à marcher. Sauf qu'en chemin, hélas, certains ont égaré l'art du doute et le sens de la nuance, de sorte qu'il nous a fallu composer avec des prévisionnistes hasardeux et naviguer entre les rassuristes et les alarmistes.
Et vous dites également, mon cher Philippe, que beaucoup de gens se sont sentis autorisés à dire à peu près n'importe quoi.
Bah oui, on croyait les théories du complot réservées à l'Amérique de Trump. On a découvert qu'elles pouvaient fleurir dans notre pays. On a aussi entendu que le virus avait été créé par l'Institut Pasteur, fomenté pour enrichir les laboratoires, pensé pour éradiquer une partie de l'humanité, les vieux, les pauvres, que sais-je. Dernier avatar en date de ces délires conspirationnistes, le prétendu documentaire Hold Up qui accumule les affabulations. On a également entendu un éminent professeur marseillais nous expliquer que les maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment, ça n'existe pas. Que le Covid était probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter, qu'une deuxième vague c'était de la science-fiction, et promouvoir un médicament dont 100 études ont démontré l'inefficacité contre ce virus. Ce professeur fait d'ailleurs l'objet de poursuites devant l'ordre des médecins pour violation de la confraternité, information erronée du public, exposition à risque injustifié et charlatanisme. En somme, la médecine s'est trouvée son Éric Drouet.
Oui, Éric Drouet, le porte-voix des Gilets jaunes au moment de l'affront des Gilets jaunes. Alors, autre enseignement, mon cher Philippe, celui-ci est proverbial. À toute chose, malheur est bon.
Bah oui, parce qu'on a vu des toubibs venir nous parler à la télé à toute heure du jour, au point qu'on se demande s'ils ne sont pas devenus des chroniqueurs professionnels. Au point également qu'on se demande à quel moment ils sont présents dans les hôpitaux ou les cabinets dans lesquels ils sont présumés sauver des vies. On les a vus publier des livres 13 à la douzaine et on s'est demandé, bêtement, où ils avaient trouvé le temps de les écrire, eux qui nous expliquent qu'ils sont mobilisés 24 heures sur 24 par la pandémie et submergés par la vague. Mais il est si difficile de résister à son quart d'heure de célébrité, pas vrai? On a vu des avocats flairer le bon coup et se dire qu'il y avait moyen de se faire de l'argent. Tels des saprophytes, vous savez, ces champignons qui se nourrissent de matière organique morte. On a vu des politiciens sur le retour tenter de se refaire une virginité. Et on a vu des chaînes d'infos en continu se livrer à une course à l'échalote, multipliant les plateaux jusqu'à la nausée, accumulant les approximations, invitant les intervenants les plus baroques, favorisant les clashs, dans le seul but non pas d'informer, mais d'assurer l'audience.
Bien, enfin, Philippe, vous constatez qu'il ne fait pas bon gouverner par temps de pandémie.
Les pouvoirs publics, depuis le début de cette crise, sont tour à tour accusés d'en faire trop ou pas assez, de réagir trop tard ou de prendre des mesures trop coercitives. de tuer les personnes âgées, puis de tuer le petit commerce.
Oui.
Les ministres sont malmenés par des commissions d'enquête transformées en jeu du cirque, perquisitionnés par la police au petit matin et menacés d'être traînés en cour de justice. Enfin, le gouvernement serait liberticide, alors que précisément le fait que tout et n'importe quoi puisse être énoncé démontre que notre liberté d'expression visiblement est intacte. Les juges peuvent enquêter, l'éducation reste assurée. Voilà. À la fin, une chose est certaine, malheureusement, ces récriminations ne guériront personne. Allez, à bon entendeur, salut.
Et pour une fois que vous avez un mot doux pour le gouvernement, dites-moi.
C'est rare.
C'est
oui.
Assez rare pour être noté.
C'est vrai.
Merci infiniment, Philippe Besson, pour cette carte blanche du lundi.
Europe 1, Julien Bugier.
19h20, vous restez avec nous dans quelques secondes. La suite du débat du Club des Idées avec ce soir Amazon en question. Faut-il soutenir ou faut-il boycotter la plateforme américaine, comme le réclament certains? On en parle avec nos invités. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées à 19h23, on s'intéresse au géant Amazon. Après la fronde des commerçants, ce sont les politiques et certains responsables syndicaux qui lancent un appel pour stopper Amazon. Ils réclament notamment une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires du géant de l'e-commerce pour soutenir le commerce de proximité. Alors Amazon, ami ou ennemi de l'économie française? Au-delà des postures de chacun, faut-il en somme avoir peur d'Amazon? On en parle donc ce soir avec Emmanuel Dutheil, chef du service Éco d'Europe. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
On en parle avec Vincent Maillet, fondateur et directeur général de Havas Commerce et auteur de Amazon, main basse sur le futur aux éditions Robert Laffont. Bonsoir Vincent Maillet.
Bonsoir Julien.
Et on en parle également avec Benoît Berthelot, journaliste au magazine Capital, spécialiste de l'économie numérique et auteur de Le Monde selon Amazon, 3 ans d'enquête aux éditions Cherche Midi. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Julien.
Alors d'abord, on va vous entendre les uns et les autres, mais d'abord je voudrais vous faire partager ce qu'a dit ce matin à la radio le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il n'est pas signataire de cette grande tribune, mais il en partage les points de vue. On l'écoute.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas juste en appeler à la bonne responsabilité des citoyens, même si c'est vrai qu'il faut essayer de faire qu'on ait un Noël avec le moins d'Amazon possible, j'ai envie de dire. Qu'on ait le moins de ces plateformes qui puissent s'enrichir sur cette situation. Mais ça ne suffit pas, il faudra de la régulation. Et la régulation, c'est aussi au niveau européen et c'est au niveau national qu'il faut, notamment à travers la fiscalité.
Alors, on va prendre évidemment les choses dans l'ordre. On va parler jusqu'à 20h, on a le temps, bien sûr, des revenus fiscaux, des impôts notamment, qui sont souvent décriés de la part d'Amazon. D'abord, est-ce que vous partagez, Vincent Maillet, le cri d'alarme des signataires de cette grande tribune? Y a-t-il urgence à stopper l'expansion d'Amazon avant, disent-ils, qu'il ne soit trop tard?
Alors, stopper Amazon, je ne sais pas s'il y a urgence à stopper Amazon. Il y a quand même, si on revient un peu en arrière... Le premier confinement a été quand même extrêmement dur pour le commerce. Et le deuxième, c'est le coup de grâce. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans la situation où avoir un magasin, un point de vente, devient un problème. Comment voulez-vous que les commerçants acceptent que le fait d'avoir un magasin est un problème, alors que toute une plateforme comme Amazon continue effectivement à livrer...
Tous les produits d'ailleurs. Il n'y a plus de question sur les produits essentiels ou pas essentiels.
Exactement.
Amazon a le droit de tout livrer.
Donc, ça pose...
Non, mais c'est ce que pointent les signataires de la tribune en disant il y a des restrictions pour les commerces physiques, il n'y en a pas pour Amazon et pour le e-commerce, donc il y a une distorsion de concurrence énorme.
Sur les produits essentiels, je pense qu'il faut peut-être expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas réussi à leur imposer un décret comme il a réussi à le faire à la grande distribution en France. C'est une raison toute simple, c'est-à-dire que si vous leur interdisez de vendre ça, c'est que vous interdisez la livraison. Et donc, ça aurait été un coup de grâce pour tout le monde, parce que du coup, ça n'aurait pas été possible pour le petit commerçant vendeur de vêtements qui a mis en place son click and collect, il n'aurait pas pu le faire. Ils ont essayé de chercher du côté du gouvernement pour voir s'ils pouvaient le mettre. Mais revenir à les interdire de vendre des produits non essentiels, c'est revenir à les interdire de faire du click and collect d'une certaine manière, ou de la livraison à domicile. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de les intéresser. Parce que certains disent, c'est parce que c'est des grands méchants américains. Non, Amazon a une filiale française pour ce qu'elle vend en France pour les produits de ses entrepôts français. Donc ça aurait été possible.
Alors, quelques chiffres sur Amazon. Évidemment, croissance exponentielle depuis le début de l'année, dopée par le confinement et la baisse de fréquentation des grands magasins. 35% de progression sur 9 mois, à 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau global, au niveau mondial. En France, ça représente 8 milliards de dollars à peu près sur une année. Un bien sur 5 vendus sur Internet en France passe par Amazon, ce qui est 2 fois plus que son premier concurrent, qui est le français Cdiscount. Benoît Berthelot, même question, faut-il aujourd'hui avoir peur d'Amazon? Ou au contraire, on peut dire, Amazon est une société d'utilité publique, en ce sens qu'elle permet à des ménages isolés d'avoir accès à tous les biens possibles et inimaginables.
C'est le cas de tous les e-commerçants en fait aujourd'hui. Hein, et on entend souvent des gens dire « moi j'achète sur Amazon parce que j'ai pas d'autres options ». C'est en fait rarement vrai, il faut être clair, il y a toujours d'autres options. Et on voit aujourd'hui que même les librairies partout en France peuvent livrer à n'importe quel point de la France.
J'ai vu qu'Amazon pesait 10% du livre en France, c'est vrai ça ?
Effectivement, au global, et pour la vente par Internet, c'est 50% des ventes en livre.
Hein. Oui, bien sûr, mais 10%. Ce qu'on aime aussi quand on achète un livre, c'est l'échange avec le libraire, c'est le feuilleter, c'est le toucher, c'est le regarder, c'est lire le résumé au dos du livre. 10% du marché du livre en France, c'est énorme.
Et paradoxalement, c'est pas si fort par rapport aux États-Unis, par exemple, parce qu'ils ont fait leur succès aux États-Unis en faisant des rabais de 30 ou 40%, y compris sur le prix des livres. Or, en France, on a la loi sur le prix unique du livre. Amazon ne peut pas faire de discount sur les prix du livre, il faut le rappeler. Hein. C'est le même prix chez Amazon, chez les libraires, chez la Fnac, partout. Donc finalement, ils sont un peu moins forts en France. On a aussi cette culture de la lecture en France des librairies indépendantes. Il y en a 3000 dans le pays, ce qui est beaucoup par rapport à la population.
Comment vous expliquez, Vincent Maillet, cette forme de schizophrénie française ? D'un côté, on adore détester Amazon, et de l'autre, j'ai regardé le palmarès encore tout à l'heure, ça reste l'une des marques et des entreprises préférées des Français.
Oui, il y a une force d'Amazon qui est absolument incroyable quand vous regardez l'entreprise d'un point de vue purement marketing. C'est cette capacité à mettre le client au centre, c'est-à-dire à inventer des services d'une exigence et d'un standard de qualité qui pose d'autres questions en termes d'entrepôt ou livraison, on est d'accord. Hein. Mais il n'empêche que la qualité de livraison d'Amazon aujourd'hui et son service, le choix qui est offert. Et la rapidité de livraison
est tout à fait inédit.
Voilà, quand vous êtes actif, que c'est compliqué d'être dans les bouchons le soir, vous dites « tiens, je vais commander sur Amazon
».
Donc c'est le sens de l'histoire. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Je ne veux pas déprimer tout le monde, mais le sens de l'histoire, ça reste quand même le e-commerce aujourd'hui. Quand vous regardez le commerce au niveau mondial, ce qui est en train de se passer en Chine avec Alibaba, et en Occident avec AliExpress, c'est absolument colossal.
Et on verra dans quelques secondes comment la France peut s'organiser pour répliquer ou tenter de concurrencer Amazon. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, oui, ce soir dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse au géant Amazon après la fronde des commerçants, mais aussi cette tribune publiée dans la presse qui enjoint un appel pour stopper Amazon, signé par des politiques, des responsables syndicaux. Ils réclament notamment une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires. Donc on en parle ce soir ici dans le studio d'Europe Soir avec nos invités. Emmanuel Duteil, notamment chef du service éco d'Europe 1. Alors, question fondamentale, est-ce qu'Amazon est créateur d'emplois ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est vraiment la question fondamentale que tout le monde se pose quand on évoque le dossier Amazon. Est-ce que l'entreprise Amazon est valeur et créatrice d'emplois et positive pour l'économie française ou c'est l'inverse ? Je vous pose la question parce qu'il y a plusieurs grandes études. D'abord, on sait qu'Amazon recrute massivement pour ses centres de commandes. Il y en a plus d'une vingtaine sur le territoire français, plus de 15 000 CTI, je crois, 9 300 embauchés par Amazon.
On est ce qu'on appelle en équivalent temps plein.
En équivalent temps plein, et puis après, il y a tous les livreurs, évidemment. Mais est-ce que quand Amazon crée un emploi, il en détruit 4,5, comme ça a été dit à un moment par le ministre Majoubi ?
Moi, je vous mentirais en étant capable de trouver cette réponse, puisque ce qui est certain, c'est que Amazon a créé, lui, un peu d'emplois, puisque eux, ils estiment qu'ils ont créé 130 000 emplois indirects. Ce qu'on est incapable de calculer, c'est la destruction d'emplois qui est liée directement à Amazon ou qui est inhérente à la vague du e-commerce. Parce que s'il n'y avait pas eu Amazon, il y en aurait eu d'autres qui seraient venus piquer ce marché. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le marché du livre aux États-Unis, où là, le marché est dérégulé, il y a un prix qui n'est pas fixe. Là, ce qui est certain, c'est qu'Amazon a détruit très massivement de l'emploi, puisqu'il y avait par exemple une chaîne qui s'appelait Borders, qui était l'un des plus grands libraires des États-Unis qui a mis la clé sous la porte. Quand vous regardez une chaîne comme Barnes & Noble, qui est la Fnac du coin, ils ont été laminés. Alors, ils existent encore, mais enfin bon, ils ont été laminés. Donc, c'est certain qu'il y a une forme de destruction du petit commerce. Ça, c'est sûr et certain.
Oui.
Après, est-ce que c'est inhérent à ce qu'expliquait Vincent Maillet, le développement du e-commerce et donc la vague et on ne peut pas la bloquer.
Mais donc, on est infichu de dire, et on parlera des impôts dans un instant, mais mis à part les impôts, on est infichu de dire aujourd'hui si Amazon en France, c'est positif ou négatif pour l'économie française.
Amazon est négatif pour la création d'emplois nets en France. Ça, c'est sûrement... ça, je pense qu'on peut l'affirmer.
Benoît Berthelot,
c'est presque trop tôt pour le dire. On saura dans 10 ans, dans 15 ans, ce qui se passera. Ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait le calcul, un salarié d'Amazon en France, il génère 900 000 euros de chiffre d'affaires et un salarié de Carrefour, 300 000 euros, trois fois moins.
Comment vous avez fait ce calcul ?
En rapportant le chiffre d'affaires de ces deux entreprises en France avec le nombre de salariés.
Oui.
Ça veut dire qu'Amazon est beaucoup plus productif. Mmh. Ils ont automatisé beaucoup de choses. Il y a des robots dans les entrepôts. Il y a nettement moins de gens pour faire tourner un entrepôt Amazon et des livraisons que de gens dans les entrepôts Carrefour, dans les supermarchés.
Et ils acceptent de perdre beaucoup d'argent pour assécher complètement les marchés. C'est aussi le modèle Amazon. C'est-à-dire qu'ils arrivent en baissant les prix. Ce qui est assez impressionnant quand vous regardez chez Amazon, ils regardent toujours le prix le moins cher et s'alignent quasiment toujours sur le prix le moins cher. Donc ils acceptent de ne faire quasiment pas de marge sur ce qu'ils vendent, parce qu'en se disant qu'ils sont tellement puissants et qu'ils vont arriver à assécher le marché à côté, dans tous les cas, à un moment, ça viendra pour eux. Et il ne faut pas oublier que la stratégie d'Amazon, c'est donc de se déployer comme ça sur le commerce. Mais ce n'est pas là qu'ils gagnent leur argent. C'est sur ce qu'on appelle le cloud, donc tout ce qu'on donne dans nos serveurs un peu partout dans le monde. C'est grâce à ça qu'ils sont extrêmement rentables. Ouais. Et c'est une boîte qui est... C'est assez tôt. Moi, j'ai vécu aux États-Unis de 2010 à 2012. Je peux vous dire que chaque trimestre, Amazon dégraissait en bourse parce qu'il faisait bien moins bien que ce qui était prévu. Et il perdait à chaque fois des millions de dollars. À chaque fois, Jeff Bezos disait... Les investissements d'aujourd'hui seront les profits de demain. Laissez-moi dépenser. Bon, bah, force est de constater qu'il a pas totalement tort.
Jeff Bezos, son modèle économique, l'homme le plus riche du monde, donc il a plutôt vu le concernant plus de 200 milliards de dollars de patrimoine avec ses actions et la participation qu'il détient dans Amazon, selon la valorisation évidemment du moment. Vincent Maillet, sur la création de valeur d'Amazon en France.
Alors, moi non plus, j'ai pas de. J'ai vu l'étude qui explique qu'effectivement, il y a une destruction d'emploi net sous l'influence d'Amazon. Moi, j'ai regardé cette étude, je ne sais pas, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement de balancier qui est très puissant, qui va du magasin au e-commerce et à la livraison. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas exactement, c'est le nombre de logisticiens, de livreurs, qui ne sont pas des jobs fabuleux, j'entends bien. Mais en attendant, c'est ça aujourd'hui qui est en train d'exploser. Ces gens-là vont plutôt bien. Donc, donc il y a un mouvement de balancier qu'on ne peut pas reprocher à Amazon. Hein.
Il y a aussi un autre élément. Vous évoquez les petits métiers d'Amazon, mais c'est un reproche qui est beaucoup fait à Amazon. C'est les conditions sociales dans ces entrepôts pour ceux qu'on appelle les préparateurs de commandes, où ils ont des scanners et ils doivent préparer X commandes en tant de minutes. Et on dit qu'ils sont suivis avec leur scanner et qu'ils ont des objectifs de rentabilité qui sont assez durs, à tel point que Amazon, quand il installe l'un de ses entrepôts dans une région française, assèche parfois le bassin d'emploi, y compris d'ailleurs avec des salariés en CDI. Et il est obligé de faire venir des salariés d'autres départements de France pour pouvoir remplir les postes qui sont vacants.
La culture d'Amazon, c'est une culture du process. C'est-à-dire que Jeff Bezos est ingénieur informaticien de formation. Et donc, en fait, il processe tout. C'est ce qui fait d'ailleurs, entre guillemets, le succès d'Amazon et son standard de qualité aujourd'hui. C'est que tout est processé. Le temps pour faire une commande. Et c'est les statistiques, en fait, qui drivent les entrepôts. Tous les entrepôts sont comme ça. Je pense que ceux d'Amazon sont encore sans doute beaucoup plus processés que les autres.
Alors, il y a un élément qui revient beaucoup dans la défense d'Amazon. Frédéric Duval, DG Amazon France, était à ce micro il y a quelques jours et il disait ceci.
Je dois être aussi une aide à tous ces commerces qui sont fermés. Il faut 3 jours pour ouvrir un compte sur Amazon.fr et commencer à vendre. 3 jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement de la science-fiction. Et ça marche pour 11 000 entreprises en France aujourd'hui. 11 000. Ça marche pour la boucherie Victor de Montélimar. Donc si la boucherie Victor de Montélimar est capable de vendre en ligne des produits partout en France, pourquoi l'ensemble des commerces français ne pourraient pas le faire? Et à nouveau, on ouvre un compte en 3 jours, on commence à vendre.
Voilà, ça c'est l'argument massue aujourd'hui d'Amazon, c'est de dire non seulement Amazon finalement participe à protéger le petit commerce ou à le faire vivre, et grâce à nous, il y a des dizaines de milliers de vendeurs qui peuvent écouler leurs marchandises partout dans le monde. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Emmanuel Dutheil?
Non, c'est pas aussi simple, en tout cas c'est vrai si on regarde qu'au premier étage. Effectivement, ce boucher de Montélimar qui a eu la plus belle pub de sa vie, il ne pourrait jamais vendre hors de Montélimar s'il n'était pas sur Amazon, ça c'est sûr et certain. Le seul problème, c'est que s'il se met à vendre beaucoup de viande, je peux vous assurer qu'Amazon va trouver le moyen de référencer lui-même directement sa viande. Parce que ce qui pose un énorme problème, et ils viennent d'être attaqués par l'Europe sur ce point-là, c'est qu'ils shippent les données de tous les clients et de tous les gens qui sont sur la marketplace. C'est pas...
Il y avait l'objectif de mieux épier les clients pour mieux les cibler.
Ils nous connaissent extrêmement bien. Enfin, bon, quand vous allez sur Amazon, que vous achetez quelque chose et que vous voyez les produits qu'on vous propose en dessous, une fois sur deux, vous vous dites, bah, bon sang, oui, ils ont raison, j'aurais peut-être dû acheter ça.
Ouais.
Donc, c'est le... Et quand, je crois, Vincent disait il y a un instant, c'est la stratégie commerciale la plus efficace au monde.
Ils arrivent à faire des achats prédictifs. Hein.
Mais bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que dans un pays comme la France, qui est un pays qui n'était pas numérisé jusqu'au confinement, il faut voir que nos petits commerçants, on avait un retard considérable. Ouais. Amazon est une solution technologique, mais ça coûte cher. Ils prennent environ 15% de marge sur chacune des ventes. Et effectivement, quand ça commence à aller trop bien, ils n'hésiteront pas à référencer eux-mêmes un produit totalement similaire.
Les impôts, on en parle dans quelques secondes. C'est l'un des points importants aussi de ce dossier Amazon. 19h40, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Amazon en débat ce soir dans le Club des Idées. Ami ou ennemi de l'économie française, on en parle alors que les appels au boycott se multiplient un peu partout en France, notamment avec cette pétition qui a été signée par un certain nombre de politiques et de responsables syndicaux. On en parle notamment avec Benoît Berthelot, journaliste au magazine Capital, spécialiste de l'économie numérique et auteur de Le Monde selon Amazon, 3 ans d'enquête aux éditions Cherche Midi. Benoît Berthelot, on parlait juste avant la pause du relais que peut représenter Amazon pour un certain nombre de PME. C'est un argument qu'aime bien mettre en avant d'ailleurs la direction d'Amazon France, qui permettrait à 11 000 PME de vendre en ligne et d'exporter. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
Non, pas vraiment, parce que c'est clair que ces entreprises existent. Enfin, c'est Amazon qui nous donne ce chiffre depuis un certain temps. Il parle de 10 000 PME.
Mais... Il nous dit d'ailleurs que les PME réalisent en moyenne 35 000 euros de chiffre d'affaires et de ventes chaque année, ce qui
voilà,
peut
donc
paraître
peut-être que c'est
confortable.
Peut-être c'est un complément de revenus pour beaucoup d'entre elles, et peut-être en ce moment notamment. Mais le gros des volumes vendus sur Amazon, c'est en fait des entreprises asiatiques et même chinoises, dans la plupart des cas, qui les font. On a fait cette enquête pour Capital de regarder 400 produits parmi les best-sellers de la place de marché d'Amazon, et 55% des entreprises étaient chinoises, de la région de Shenzhen. Amazon est allé chercher ces entreprises-là parce que, évidemment, elles offrent des produits à bas coût. Pendant longtemps, d'ailleurs, elles n'ont pas payé la TVA. Amazon les laissait se charger de la TVA, ouais. Et elles ne la payaient pas. Ça doit être régularisé l'an prochain. Donc ça, c'est des milliards d'euros de fraude fiscale qui ont eu lieu. C'est finalement celle-là, la plus grosse fraude fiscale d'Amazon. Mais c'est des produits qui arrivent, donc étaient moins chers de 20%, qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Et c'est ça le gros des volumes vendus sur Amazon aujourd'hui, il faut le dire.
Alors avant de passer aux impôts, peut-être un mot, Vincent Maillet, on parlait tout à l'heure de la force d'Amazon et notamment de ses algorithmes. On dit que la plateforme nous rend dépendants et qu'elle nous donne une forme de satisfaction à pouvoir acheter. Acheter, on le sait, ça a une incidence sur le fonctionnement du cerveau. Acheter parfois rend heureux pour certains consommateurs. Et aussi un mode de livraison qui fait que le produit arrive quasiment tout de suite, parfois en une heure avec le service Amazon Prime dans les zones urbaines, ou parfois en 24 heures ou 48 heures. Mais ça fait aussi partie de la stratégie d'Amazon, nous faire acheter toujours plus.
Ah bien, oui, enfin ça, il n'y a pas un distributeur qui va vous dire qu'il est là pour faire acheter moins, clairement. Mais ce qui se passe, il y a deux choses qui se passent en fait quand on regarde la façon dont se développe le e-commerce. Le premier, c'est qu'il y a une espèce de sentiment de pouvoir de la part des clients et des consommateurs à commander via un mobile. C'est une espèce de truc là, cette espèce de télécommande. Vous savez, c'est toujours, il y avait des chercheurs qui avaient regardé, qui avaient étudié qui prenait la télécommande de la télé dans la famille. En fait, c'était lui le chef. Il y a un peu la même chose avec le mobile. Ça. Il y a cette idée que quand j'ai mon mobile et quand
c'est
je
un truc
commande,
d'addiction alors.
Une espèce d'addiction, une espèce de rapport de force. En fait, on est dans un... Finalement, on détient une forme de baguette magique qui s'appelle le mobile. Et cette baguette magique permet d'acheter à peu près partout, dans le monde entier, des produits dont on a envie. Ça, c'est le premier sujet. Donc, on l'a vu dans les études consommateurs, il y a cette envie de petit kiff, c'est-à-dire acheter comme ça, à un moment donné, dans une journée, parce qu'on a du temps libre, qu'on a envie de s'acheter quelque chose, ou qu'on s'ennuie, tout simplement. Ça peut arriver. Donc, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la magie de recevoir un colis chez soi et de se dire, tiens, j'ai un cadeau à ouvrir. Donc, c'est deux sujets sur lesquels...
C'est ce que vous dites, parce que j'avais fait une enquête sur Amazon il y a quelques temps et on avait une consommatrice qui disait, moi, si je ne reçois pas un colis tous les 3 jours, j'ai l'impression de rater quelque chose et d'être malheureuse.
Oui, alors c'est un peu terrible, mais c'est pas totalement faux. Et puis, Amazon, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'entreprise se développe de façon incroyable, c'est qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle un insight en langage marketing, qui est une forme de feignantise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement simple, c'est tellement facile de commander et d'acheter que ça devient addictif. C'est exactement ce que vous disiez. C'est pour ça que c'est terrible à dire, mais je ne sais pas s'il faut tuer Amazon ou pas, mais c'est terrible à dire, mais le sens de l'histoire, quand même, pour bon nombre d'achats, notamment les achats récurrents, les achats purement fonctionnels ou utilitaires, je pense que le fait de commander et de se faire livrer va devenir la norme. Mmh. Donc c'est comment en France on s'adapte à ça. Il y a des initiatives très sympas qui sont en train de se passer, alors notamment le gouvernement qui lance une plateforme, mais vous regardez le Grand Nancy notamment, oui. Le Grand Nancy vient lancer une marketplace, et je trouve que l'avenir est là.
Oui.
C'est-à-dire en gros de donner des armes à tous les petits commerçants, à tous les gens qui fabriquent des objets aussi, qui veulent les commercialiser, de pouvoir les distribuer.
Et puis il y a la Poste, vous en parliez dans votre émission, Emmanuel Dutheil.
Ce qui est intéressant sur ce que dit Vincent, il faut se rendre compte que depuis le deuxième confinement, la part de marché d'Amazon baisse en France, notamment à la marge, parce qu'il y a toutes ces petites plateformes, et grâce au fait que ces petits commerçants se numérisent. On pourrait citer l'exemple de petites villes, par exemple Cognac, c'est 20 000 habitants, ils ont créé une plateforme, vous avez 33 commerçants aujourd'hui dessus, c'est sûr qu'on a plus envie de commander à sa petite librairie de Cognac, si on le peut, et aussi facilement que sur Amazon.
Alors je voudrais qu'on dise un mot des impôts, il nous reste quelques instants, là-dessus évidemment tout le monde est d'accord, c'est ce que rappelait encore Laurent Berger ce matin, il faut contraindre Amazon à payer sa part de fiscalité au bien commun, c'est ce que dénonçait aussi il y a quelques jours à ce micro le patron d'Intermarché Thierry Cotillard qui disait c'est une concurrence déloyale pour nous parce qu'on paye 10 fois plus d'impôts qu'Amazon aujourd'hui en France. Est-ce que c'est toujours le cas? Amazon revendique aujourd'hui 420 millions d'euros. Alors c'est pas vraiment des impôts, hein. C'est tout confondu, c'est-à-dire
compris la TVA payée par les clients.
Les impôts, la TVA, les charges, je crois même.
Oui,
c'est pas cotisations et impôts.
Donc c'est très peu par rapport à ce qu'ils gagnent évidemment en France. On est d'accord
évidemment,
là-dessus.
Évidemment, c'est un gloubi-boulga qui est de la communication encore une fois. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre avec Amazon, c'est qu'ils ont quelques filiales vraiment situées en France, celles qui ne font pas de profit, en gros, c'est-à-dire le e-commerce, ça rapporte très peu, c'est de faibles marges et on l'a dit, ils ont des coûts très serrés. Et toutes les filiales qui rapportent beaucoup d'argent, c'est-à-dire la publicité sur leur site, le cloud dont on a parlé, qui est la plus rémunératrice de toutes les activités d'Amazon, toutes ces activités-là, elles sont encore aujourd'hui centralisées au Luxembourg.
La taxe GAFA, ça verra le jour
bien sûr que
bientôt.
Ça verra le jour, c'est le 10 décembre le prélèvement. Et Amazon va être concerné, c'est 3% du chiffre d'affaires.
Ça, c'est pour la taxe française.
C'est la taxe française, on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord.
Mais il y a un projet de taxe européenne.
Oui, enfin bon, pour le moment, c'est quand même mal parti. Peut-être que l'élection de Joe Biden aux États-Unis va permettre de remettre ça sur la table. Mais en tout cas, ils n'y arriveront pas tout de suite. Donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, le promet.
Oui.
On l'avait juste suspendu. Donc je peux même vous dire, c'est le 10 décembre que ça va être.
Ce qui est terrible, c'est qu'Amazon a déjà dit qu'il allait répercuter sur ses fournisseurs, donc c'est les petites PME dont on parlait tout à l'heure, c'est 3% de prélèvement.
Mais si, alors, je suis désolé, vous allez me prendre pour un fou, mais si on réfléchit d'un point de vue purement commerçant, ils ne font pas 3% de marge sur ce qu'ils vendent en France au niveau des produits. Donc, on mettrait une taxe de 3% sur Carrefour, sur tous les produits qu'ils vendent, je ne suis pas certain que Carrefour saurait l'absorber tout seul et aurait besoin que soit ses fournisseurs, soit ses clients payent une partie.
Carrefour paie ses impôts en France, rassurez-moi.
Ah oui, rassurez-vous. Ouais.
Merci Emmanuel Dutheil, merci à tous les trois d'avoir été ce soir dans le studio d'Europe 1 pour évoquer Amazon.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous, 19h49, dans un instant, les archives d'Europe Soir. Nous parlerons d'une affiche, conçue pour être l'un des plus grands outils de propagande nazie et qui finira comme un emblème de la résistance. Explication après la pub, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, le Club des idées se poursuit. On plonge maintenant, comme chaque soir, dans les archives d'Europe Soir pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Alors ce soir avec vous, nous allons faire un saut dans le temps, 77 ans en arrière, pour vous raconter l'histoire d'une fameuse affiche, l'affiche rouge. 16 novembre 1943, la France est occupée par les Allemands. Les nazis et le régime de Vichy traquent les résistants. Ce matin-là, Pauline, à Évry, dans l'Essonne, Missak Manoukian, celui que l'on connaît comme le chef du groupe Manoukian, est arrêté.
Oui, embarqué par la police française après des mois de traque, Missak Manoukian, arménien, 37 ans, et ses camarades sont finalement stoppés. Assassinat de responsables nazis, sabotage, accident de train, 8 Polonais, 5 Italiens, 1 Espagnol. C'est l'Europe de la résistance avec à leur tête ce chef charismatique, immigré, poète, regard noir et moustache brune. Un journaliste aussi dont se souvient sa femme, Méliné Manoukian.
Manoukian, c'était un homme très, très calme. C'était un homme d'esprit. Il avait un caractère extrêmement doux. Il n'aurait même pas marché sur une fourmi. C'était un homme qui aimait beaucoup, beaucoup la vie. C'était un homme qui faisait tout pour vivre, mais vivre seul et être heureux seul, ça n'avait pas de sens.
Les 23 résistants sont incarcérés, tous membres des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, unité armée de la résistance du Parti communiste.
Oui, incarcérés puis jugés, Pauline, le 17 février 1944, à l'Hôtel Continental à Paris, là où sévissait à l'époque la cour martiale nazie.
Simulacre de procès où le procureur demande la peine de mort. Les avocats allemands des membres du groupe Manouchian s'empressent d'accepter dans la salle. Sous les lustres et les croix gammées, on insiste sur leurs noms étrangers, sur leur religion aussi, lors de la présentation des accusés. Raconté sur Europe 1 en 79.
Fingerswag, juif polonais, 21 ans.
Le président se reprend à deux fois pour prononcer le nom de cet accusé. Il le fait exprès pour bien souligner que c'est un étranger, que c'est un juif. Dans la salle, les journalistes éclatent de rire. Les accusés, eux, se taisent. Le jeune juif, dont le nom a provoqué l'hilarité de la salle, n'a pas bronché.
Propagande raciste, antisémite, le régime de Vichy et les nazis veulent faire peur. Ils conçoivent une affiche, rouge comme le sang, qui porte en lettres blanches ce slogan. Des libérateurs, oui, c'est la libération par l'armée du crime.
Dans les imprimeries allemandes de Paris, les rotatives tournent à pleine vitesse. Elles débitent des milliers d'affiches et de tracts, des affiches rouges sur lesquelles on peut reconnaître 10 des membres du groupe Manouchian, où les condamnés sont particulièrement sales, hirsutes et effrayants.
Terroristes, étrangers, tueurs, ils sont venus comploter contre la France, disent les nazis. L'affiche rouge est placardée partout dans le pays et dans les rues de Paris. Des tracts sont distribués pour appuyer la propagande.
Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. Le banditisme n'est pas l'expression du patriotisme blessé. C'est le complot étranger contre la vie des Français et contre la souveraineté de la France.
Mais la propagande, Pauline, ne fonctionne pas à hauteur de ce qu'espéraient les nazis.
Oui, parce que certains Français viennent en fait déposer des fleurs sous les affiches. Elles se retournent contre le régime nazi. Cette affiche les humanise. Leurs noms, leurs photos, des gens collent à côté d'eux des bandeaux. Oui, à l'armée de la résistance. Les 23, qualifiés d'infâmes racailles par les médias collaborationnistes, sont qualifiés de martyrs dans les ruelles françaises.
Martyrs, Pauline, puisque le 21 février 1944, les 23 du groupe Manouchian sont fusillés.
Dans leur prison, quelques heures avant, ils peuvent écrire une lettre. Celle de Missak Manouchian à sa femme commence avec ces mots.
Ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit.
Souvenir intact dans la mémoire de son épouse.
Il m'a dit, je te prie de te marier après la guerre, mais je crois que depuis 33 ans, il n'y a pas un jour, un moment que j'oublie ça, parce que c'est très dur d'oublier un événement pareil. Manouchian, il a donné son sang rouge pour la France.
La paix et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu. La lumière, le vent.
En 1955, Louis Aragon écrira le poème Strophe pour se souvenir, repris en musique, vous l'entendez, 4 ans plus tard, par Léo Ferré sous le titre L'affiche rouge, 23 étrangers résistants, morts en chantant la Marseillaise.
Merci Pauline pour ce récit et cette plongée dans l'histoire avec ses archives et cette musique absolument magnifique. 19h57, vous restez avec nous dans un instant, le rappel des titres de l'info et puis juste après on retrouve pour la musique justement Émilie Mazoyer. Salut Émilie.
Salut Julien.
Quel programme ce soir ma chère Émilie?
Ce soir, nous allons célébrer un groupe français complètement hors norme qui a du succès depuis maintenant 15 ans et qui sort son premier best-of, c'est Chaka Ponk. Sam et Fra du groupe Chaka Ponk qui viennent nous parler de leur premier best-of Apologies ce soir dans Musique.
Génial, à tout de suite avec Chaka Ponk, Émilie. 19h58, l'info donc, et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous même lieu, même heure, demain à partir de 18h. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer sur Europe. Merci de votre fidélité, à demain.